Qui est missionnaire? Ah, nous avons pris l'habitude d'entendre, comme celui que nous venons d'entendre dans la deuxième lecture, le témoignage de personnes qui sont parties en mission ou qui rendent témoignage de l'action qu'ils ont exercée et vécue pour le Seigneur, donnant leur vie pleinement, entièrement, parfois jusqu'à la mort, et donnant ainsi le témoignage de toute une vie de conversion à la suite du Christ ressuscité. Et c'est un petit peu l'exemple que nous avons dans cette deuxième lettre de saint Paul à Timothée. Ainsi, celui qui vit la mission peut reprendre aussi les mots mêmes de ce psaume 97-98. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire, etc. Et on se rend compte déjà là que dans celui qui chante les merveilles de Dieu, il y a deux actions, une double action. C'est un petit peu comme certains produits ménagers. La première action, c'est celle que le missionnaire vit et exerce auprès de ceux auxquels il est envoyé. Et là, on voit, il chante cela. Il chante et il témoigne auprès de cela. Et puis, il y a l'action aussi sur lui-même, à la fois sur la mission qui le transforme et aussi sur le fait qu'il se rend témoin des signes que Dieu manifeste auprès de lui et auprès de ceux qui bénéficient de ce témoignage, de cette proclamation de la parole de Jésus. Double action. Et si nous remarquons cela ici, alors nous pouvons creuser un peu plus les textes, la première lecture extraite du livre des Rois et l'Évangile, qui nous ouvre à finalement entrer dans cette réponse qui pourra sans doute dans la semaine aller plus loin en vous, mais donnons quelques éléments maintenant de cette réponse. Qui est missionnaire et pour qui? Lorsqu'on regarde le texte avec le prophète Élisée avait demandé à Naaman, qui était malade, de faire quelque chose de tout à fait banal. C'est pas très compliqué ce qu'il lui demande. Va te plonger dans le Jourdain cette fois. Alors, on n'a pas le texte ici, mais Naaman se dit, c'est bon, quoi, il me prend pour un imbécile, pour un crétin. Moi, le général, je vais aller me plonger cette fois dans une rivière, j'en ai plein des rivières chez moi. Il est débile, ce prophète. Mais ce n'est pas là qu'est l'intérêt pour nous aujourd'hui par rapport à la question de la mission. Le prophète avait reçu l'appel de Dieu pour Naaman de faire quelque chose. Aussi simple soit-il, il lui a fait cette proposition. Il a donc été, lui-même, Élisée, à la fois évangélisateur, entre guillemets, et témoin de ce que Dieu peut faire pour cette personne. Ça, c'est pour le prophète. Mais si on regarde maintenant Naaman, finalement, après avoir bien râlé, il fait la chose. Il va se plonger dans le Jourdain. Il est guéri, et il est guéri avec, comme présent à lui, tous ceux qui l'accompagnent. Il devient donc, pour son armée et pour son pays, le témoin de ce que Dieu peut faire, de ce que la puissance de Dieu peut faire pour lui et pour tous ceux qui lui font confiance. C'est la première des choses. Il devient déjà témoin pour lui-même, parce qu'il dit à partir de maintenant, il ne va plus adorer que le Dieu d'Israël. Mais, chose curieuse, il revient sur ses pas. Il revient voir le prophète. Étonnant. Il aurait pu très bien repartir, continuer sa route, rentrer chez lui. Non, non, il revient. Alors il veut faire un cadeau au prophète, il veut lui donner de l'argent, il veut lui donner quelque chose, en signe de gratitude. Comme le prophète dit, non, non, rien, rien, rien. Il emporte de la terre. Mais remarquez que cette relation entre les deux va aussi rendre témoignage de la puissance de Dieu auprès d'Élisée. Élisée devient témoin de l'action de Dieu qui a opéré en Naaman. Quelque part, finalement, l'un et l'autre sont transformés, et c'est peut-être pour cela qu'Élisée refuse le cadeau. Il remet tout entre les mains de Dieu. Lui aussi est transformé, converti encore plus à la grandeur, à la puissance de Dieu. Alors regardons maintenant dans l'Évangile pour voir si ça se passe de la même façon. Ben oui, enfin presque. Déjà, Jésus se trouve dans une région, on nous dit, entre la Galilée et la Samarie. A priori, quand on regarde une carte, entre la Galilée et la Samarie, il n'y a pas d'autre région, c'est la frontière. Ou alors, si je me plante, Jésus joue à cloche-pied entre un côté et l'autre de la ligne de frontière. Alors bon, on sait quand même que entre la Galilée, les collines de Galilée et les montagnes arides de la Samarie, il y a un entre-deux un peu plat, un peu en bas, dans cette région de No Man's Land, où il y a quand même quelques villages, semble-t-il, et où en tout cas, des gens circulent, se mêlent, et on voit ces lépreux avec un samaritain au milieu, ça leur pose pas de problème. Tiens, comme quoi les zones frontières s'enrichissent mutuellement. De ces 10 lépreux, qui se tiennent à distance, ils respectent la loi, ils parlent à Jésus de loin, ils veulent éviter de contaminer les autres, et ils savent que dans la loi, c'est prescrit de se tenir à distance quand on est lépreux. Et ils interpellent Jésus de loin. Et Jésus, encore une fois, comme Élisée, leur demande quelque chose de tout à fait banal. Il ne fait rien. A priori, il n'y a aucune action. Il leur dit, allez vous montrer au prêtre. Aucune contestation. Ils y vont. Ils y vont. Ça veut dire que quand même, ils ont confiance en ce que Jésus leur dit. Il y a déjà là une action de Dieu qui se manifeste en eux. Ils partent. Et puis il y en a un qui apparemment a été un peu plus loin dans sa conversion. Il a fait un chemin, pas que physique, mais un chemin spirituel qui le fait lui aussi revenir en arrière. Il ne va pas jusqu'au prêtre. L'action de la guérison a eu lieu, il revient sur ses pas, il se met aux pieds de Jésus, signifiant ainsi que Jésus l'a mis à mort. Se mettre aux pieds de quelqu'un, c'est reconnaître que l'autre m'a tué. Jésus le relève. Relève-toi, ta foi t'a sauvé. Il est vivant à nouveau. Parce qu'il est allé jusqu'au bout, il reconnaît en Jésus Dieu sauveur. Il a été transformé lui-même. Ainsi, l'action missionnaire l'a touché lui. Il est missionnaire pour lui-même. Peut-être est-il missionnaire aussi pour les autres et les 9 autres qui ne sont pas revenus en arrière. En tout cas, il devient missionnaire pour ceux qui entourent Jésus et qui reconnaissent là les signes de la manifestation de la puissance de Dieu. Il est lui aussi transformé et les autres sont aussi transformés. Sans cesse, nous sommes invités à vivre de cette transformation continuelle grâce à la mission. Le pape revient régulièrement sur cette question. Une église est église que si elle est mission, que si elle est ouverte à la mission, que si les portes du courant d'air de la proclamation de l'évangile claquent, que si le courant d'air missionnaire passe au travers de la communauté et traverse tous les champs de la mission qui nous sont proposés. Cette mission, finalement, elle vient rejoindre chacun de nous. Chacun de nous est disciple de Jésus-Christ que si il est missionnaire, que si en lui s'opère une transformation et que cette transformation vient toucher ceux qui l'entourent. Et s'il reconnaît autour de lui comment Dieu se manifeste au milieu de sa création. Incroyable. Incroyable mission qui doit nous habiter sans cesse. Double action, triple action. Pour terminer, je voudrais vous donner le témoignage de ce père blanc, missionnaire d'Afrique, qui a vécu 30 ans en Algérie et qui disait volontiers, étant devenu recteur de la basilique Notre-Dame d'Afrique, qui disait volontiers qu'en 30 ans de mission en Algérie, il avait peut-être, pas sûr, peut-être réussi à convertir une personne, lui-même.